Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur. Bumpy.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et pour la troisième année consécutive, nous avons le plaisir de partager le réveillon de Noël avec vous et avec quelques grandes voix du sport. Alors, après avoir écouté Eugène Saccomano, Nelson Montfort, Georges Eddy, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet en 2019, puis Thierry Gilardi, Marinette Pichon, Omar Da Fonseca et Georges Eddy l'année dernière.
Quelle mémoire.
Tout dans ma tête. Tout est dans la tête, hein, vous avez remarqué. Bon, merci.
C'est un robot, ça.
Nous revenons cette année avec quatre nouvelles voix, choisies avec soin par mes petits camarades. Bonjour Thibaut.
Bonjour à tous.
Bonjour Chloé.
Coucou Sarah.
Hello Olivier.
Et salut à tous et joyeux Noël.
Et oui, et bonjour Thomas.
Bonjour et bonne année.
Et oui, je suis très contente de vous retrouver après votre excellent épisode sur Lance, malgré mon absence. C'était parfait.
Tu nous as manqué énormément. J'étais perdu sans toi.
On était en roue libre.
Lance n'est pas dopé.
Ils ont fait n'importe quoi, Sarah. Il faut que tu reprennes maintenant un petit peu les choses.
Oui, oui, je repose mon autorité comme d'habitude. Et donc, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec toi, Thibaut. Tu vas nous parler, je crois, de celui qu'on surnommait, et j'ai trouvé ça joli, le 16e homme du 15 de France. Qui est-ce ? Pourquoi ce surnom ? Je te laisse la parole.
Je vais vous parler de Roger Coudert. Vous connaissez Roger Coudert, les enfants ?
Bah non, pour être honnête.
C'est lui qui a inventé l'huile ?
Eh ben moi non plus. Bonne soirée à tous. Oh. Attends, j'essaye de comprendre la blague sur l'huile.
Oui,
l'huile de coup d'air.
Voilà. Oh là là, ouais. Allez, un peu de lyrisme. D'aussi loin qu'ils m'en souviennent, je pense que je n'ai jamais vu de son vivant la gueule sans pareil de Roger Coudert, le béret vissé sur la tête, les lunettes fumées, ni même entendu la voix rocailleuse et si entraînante de celui que l'on surnommait le 16e homme, comme tu le disais, Sarah. Normal, me direz-vous, puisque Roger Coudert est mort en 1984.
Oh, on n'était pas nés.
Enfin, si, Younes avait déjà 96
ans. Oui, c'est vrai.
Comme le poisson, Younes.
Oui.
Ok.
Vous avez donc décidé de me bousiller.
Oui,
tous. Pourtant, j'ai toujours eu l'impression qu'il m'avait accompagné Roger, dit Zézé. Roger Coudert, c'est l'histoire d'un type qui a inventé un métier, comme le dira François Mitterrand quand il lui remettra la Légion d'honneur au début des années 80. Avant lui, le commentaire sportif, c'est un commentaire triste, monocorde, technique, finalement pas très sexy, un vrai métier de retranscription. Et avec Roger, et après Roger, le sport et le rugby vont devenir des sports vraiment commentés par des, non pas des journalistes, mais des vrais commentateurs qui mettent leur trip dans leur voix.
Des spécialistes des...
Pas vraiment, tu vas voir. C'est la véritable... C'est la véritable entrée dans le sport-spectacle. Alors Roger Coudert, il est né à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, à Souillac,
en Lot-et-Garonne.
Pas dans le Lot-et-Garonne, dans le Lot d'ailleurs. Il est formé au rugby, dont il dira qu'il fait partie de l'espèce la plus répandue, celle des tocards persévérants.
C'est mignon.
Pas vraiment sympa avec lui-même, Roger. Et il se sent surtout une âme d'artiste, donc il monte à Paris, comme on le disait autrefois, et il veut, lui, devenir artiste, il va se former aux Beaux-Arts. Mais là, il va comprendre qu'il n'y a pas trop d'argent, c'est un peu dur, donc bizarrement, il va vouloir devenir journaliste, c'est assez bizarre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux gagner de l'argent, tu ne deviens pas journaliste, non. Ensuite, il y aura la Deuxième Guerre mondiale, Roger sera fait prisonnier, comme Younes.
C'est là qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs.
Il en gardera toute sa vie une santé relativement fragile, comme Younes. Et celui donc qu'on appelle Zézé, c'était vraiment son surnom dans sa famille, s'engage à travers le journalisme puisqu'il va devenir une des plumes du journal Libre à la fin de la guerre, qui est un journal créé par François Mitterrand justement. Après la guerre, la vraie carrière de journalisme de Roger commence. Il fait de la radio à la RTF, il commente du rugby à 13, de l'automobile avant de passer à la télé à la fin des années 50. Et là, Zézé devient le Roger qu'on va adorer pendant deux décennies, celui qui nous fait vibrer, pas pour du rugby, mais pour du catch.
Oh.
Ah.
Vous aimez bien le catch ?
Ouais.
Bien sûr.
À l'époque, c'est une discipline hyper populaire. Il y a par exemple le bourreau de Béthune.
Bien sûr.
Ou l'ange blanc. Et Zézé, lui, sait manier la comédie quand il croise notamment le catcheur de la porte, toujours à l'antenne, Magnéto, Serge.
De la porte va passer devant nous. Je vous laisse passer. Thank you. de la porte et devant nous maintenant, il s'en va, il regagne. Ah ben dis donc, mais moi je veux dire rien, moi quoi. Mais non, mais sans blague, et oh, et de la porte, et t'amuses pas, moi je t'en fous une, moi, hein. Ah ben dis donc, mais qu'est-ce que... Je suis pas le masque noir, moi, hein, de la porte, là. Je suis pas fâché d'avoir dit ça. Alors maintenant, il y a déjà l'ange blanc, il y a le masque noir, et maintenant, il va falloir qu'il compte avec moi également. Nous sommes trois. Bon, eh bien, de la porte n'est pas content. C'est moi qui en ai fait les frais. La prochaine fois, on les fera descendre de l'autre côté.
Bon. Quel comédien,
et oui, parce que ce qu'il faut retenir, donc Serge, il ne faut pas l'embêter. C'est vrai, c'est pas Serge, je sais pas pourquoi je l'appelle Serge, c'est Roger. Non, mais en fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'était que du spectacle, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, il avait dit au catcheur avant de descendre qu'il allait s'engueuler avec lui, que ça allait faire un moment sympa à la radio, à la télé. Donc ça, c'est vraiment les prémices du vrai, du vrai spectacle, du vrai divertissement commenté.
Ouais, on dirait les cousinades dans ma famille, mais ok.
Oui, ils ont peut-être une vraie vocation. Ensuite, au début des années 60, Roger Coudert va vraiment prendre du galon. Il va participer à des émissions avec Thierry Roland, avec Dominique Chapat. Donc là, il commence vraiment à être un peu plus connu. Il participe même à Interville.
Très stylé. En tant que candidat, il fait le ventriglisse. Non, c'est tout.
Non, il fait la vachette.
Pas le ventriglisse. Et ensuite, il revient à ses premières amours, le rugby. Il n'a pas d'égal pour commenter les exploits qui peuvent vous paraître très pénibles des équipes comme Agen, Dax ou autres, et faire vibrer le vrai ballon dans sa voix. On va vous faire écouter un nouvel extrait de match de rugby commenté par Roger Coudert.
C'est parti toujours. C'est parti encore. C'est parti, allez-y les gars,
magnifique,
allez-y,
magnifique.
Entre les poteaux, entre les poteaux. Allez, ouais, t'as Paris.
Même ma mère qui ne comprenait rien au rugby, elle écoutait, mais elle écoutait la voix de Coudert. Le match, le résultat, on pouvait lui demander, elle ne s'en souvenait pas.
Vas-y petit, vas-y, oui.
C'est trop mignon le commentaire.
Oui.
Mais oui, ça vous a donné envie de regarder du rugby.
Oui.
Oui. Oui. Alors en fait, il le dit lui-même, la technique, il s'estime pas vraiment pas compétent, mais il estime qu'il a pas la prétention de pouvoir la retranscrire, donc il en fait fi. Il a peur d'endormir les gens avec, et il se met à commenter les matchs comme un supporter. Et ça, c'est relativement nouveau. Il crie, il exagère, il pousse les joueurs comme s'il était sur le terrain. Vous avez entendu donc ce monsieur qui dit, moi ma mère elle regardait ça, mais en fait elle écoutait ça, mais elle en avait un peu rien à foutre du score. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on peut faire à un commentateur sportif, c'est de dire, moi je l'écoute parce que j'ai envie d'entendre cette voix, mais le match en lui-même, je m'en fiche. Et Patrick Montel, dont je vous ai parlé l'an dernier, disait de Roger Coudert, c'est pour moi le commentateur numéro un indiscutable, simplement parce qu'il ne connaissait pas le rugby. Je trouve que c'est l'art absolu que d'arriver à susciter une émotion chez les gens sans forcément connaître le sujet dont on parle.
C'est trop beau. Bon, nous aussi, on fait ça dans EPO.
Oui. Montel, il dit un peu des conneries parce qu'en fait, Coudert, il connaissait. Il avait fait le choix de ne pas commenter techniquement, mais il connaissait en partie. Et qui de mieux que Roger lui-même pour parler du métier de commentateur sportif et de sa manière de l'exercer. Allez-y.
Le rôle du commentateur en rugby, et en sport en général d'ailleurs, est de souligner l'image et de l'expliquer. Parce que le rugby n'est pas un sport tellement facile, c'est un sport assez complexe, les règles sont assez difficiles, l'arbitre ne voit pas toutes les fautes. Je crois que, et pourtant l'arbitre c'est le mieux placé, je crois qu'il faut expliquer ce qui se, essayer d'expliquer ce qui se passe et vivre le match, s'intégrer au match. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur ma façon de concevoir le reportage, mais moi je prétends qu'il faut que le reporter, je dis pour tous les sports, ça n'est pas vrai, c'est vrai pour le rugby, ça n'est pas vrai pour tous, mais je crois qu'en rugby il faut que le reporter vive le match, s'intègre au match en essayant d'expliquer quelquefois ce qui se passe, mais en se laissant emporter par l'enthousiasme de ce sport qu'on appelait le sport roi.
Touche longue pour Salut qui la prend. Il se fait écrouler mais il l'a eu. Les Écossais la reprennent. Attention, Sheul, c'est dangereux, va le contrer.
C'est ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas être trop technique pour ne pas barber celui qui ne connaît pas les règles. Et ne pas simplifier non plus trop les choses, parce que là, on ne contentera pas le technicien, celui qui connaît très bien le rugby. Je crois qu'il y a un juste milieu à trouver. De toute façon, je crois que c'est l'enthousiasme et la sincérité qui met tout le monde d'accord. Et les techniciens et ceux qui ne le sont pas. Si les gens On ne peut pas tricher. Ça n'existe pas. On ne peut pas tricher pendant des années. Si les gens sentent que vous êtes sincère au micro, ils vous pardonnent bien des choses. Je crois que ça arrange tout.
C'est pour ça qu'on pardonne les jeux de mots d'Olivier.
Oui. Ça, ça te plaît, Sarah, la sincérité, la vérité.
Hein. Oui, j'aime.
Non, donc il explique, c'est un vrai parti pris. Il dit, voilà, bah, moi j'ai choisi d'être une sorte de supporter. Tant pis si c'est partial, c'est comme ça que j'emmerderai un peu moins les gens. Il est parfois lui-même un peu chiant quand il parle de ça, mais bon, ça c'est autre chose, c'est intéressant. Et allez, vous nous remettez peut-être
un petit extra.
Une rasade, oui.
Allez, une petite dernière.
À l'épreuve du match.
Difficile ce couloir dans la mêlée. Oh là là, j'ai l'impression que monsieur Dello fait un peu de trapèze là. Ouverture sur Gachassin, Gachassin. Donne la Dourte qui fait le trou. Passe la ligne des 50 mètres. Continue. Donne la Duprat. Attention Duprat. La ligne. Ouais. Oui. Essai de Duprat. Sur une attaque menée par Gachassin qui a donné à Dourte, qui a donné à Duprat. Et là, vraiment, il est mérité, Robert Poulin.
Bien sûr. C'est du rugby pur là. Très net, précis. C'est du très beau rugby.
Je vous le disais depuis le début de ce match. L'essai chauffe pour l'équipe de France, il vient de marquer par Duprat.
Là encore, toujours les mêmes extraits. Il prend même à partie le mec d'à côté en lui disant « T'as vu, c'est mérité quand même. Dis-le que c'est mérité. Hein. » Franchement, c'est vraiment le pur. On est au bar et puis on commente le match à deux, mais ça faisait fureur. Et donc, la phrase qu'il a rendue célèbre, qu'il disait toujours, c'était des formules très affectives. « Allez-y les petits, allez les petits. » Alors qu'on parle de mecs qui font 100 kilos et qui sont complètement musculeux, mais donc, c'est ça qui a beaucoup plu. Alors, dans la suite de carrière de Coudert, ce qui est intéressant, donc on a vu qu'il c'était un mec plutôt engagé à la fin des années 40. Il écrivait donc pour des revues de partisans de la liberté. Et quand arrive mai 68, malheureusement, Roger Coudert, sous ses airs de petit journaliste supporter, c'est vraiment un type engagé. Et il tient le pavé, ou plutôt il tient la tribune de la Sorbonne, et il va encourager les étudiants avec ce fameux « Allez les petits ». Ça plaira pas beaucoup aux dirigeants de l'époque, il se fera virer de l'ORTF, parmi d'autres journalistes, hein, pas que lui. Et là, il retourne à la case radio. À la radio, il débarque sur RTL puis sur Europe 1, et là les dirigeants vont vraiment inventer le vrai duo d'aujourd'hui, c'est-à-dire on va lui adjoindre un adjoint qui s'appelle Pierre Albaladejo, qui est un ancien joueur
de rugby.
Et on va dire Albaladejo, Coudert, vous allez commenter ensemble. Albaladejo, tu vas faire la technique, tu vas expliquer ce qu'est le rugby, et toi Coudert, tu vas nous donner l'émotion. Ça, on le retrouve partout maintenant.
Super.
Les duos dans le foot, dans le rugby, dans n'importe quel sport, on a le consultant et on a le journaliste commentateur. Et donc ce duo de journalistes, il va cartonner, il va permettre de populariser le rugby, l'équipe de France de rugby, les gens vont regarder des matchs du tournoi des 5 nations dans les années 70, alors que c'était pas si populaire que ça, en tout cas pas auprès de toutes les franges de la population. Ça va tellement marcher qu'ils vont revenir à la télé, parce qu'à la radio, beaucoup disaient moi j'allume le match, je regarde sur Antenne 2 à l'époque, mais je mets sans le son, mais je mets le son de Coudert et Albaladejo qui sont sur Europe 1 et RTL.
C'est super.
Et donc ils vont finalement revenir à la télé, enfin venir à la télé, parce qu'Albaladejo n'avait jamais fait de télé. Il va faire ça jusqu'en 1983, ça va durer un moment, et puis il va choisir son moment. En 1983, il va décider de tirer sa révérence avec toujours le même humour et une déclaration d'amour pour l'Ovalie. On peut l'écouter.
Mon père qui a 95 ans et qui est toujours à Souillac et qui va m'écouter tout à l'heure sur Antenne 2, et il versera sa larme habituelle. Il me téléphonera pour me dire « J'ai pas tout entendu, mais c'était très bien !» Ouais, c'est mon père, hein.
Roger, vous étiez l'ambassadeur, vous êtes l'ambassadeur du rugby et en conséquence aussi l'ambassadeur de la région, inéluctablement.
Ce que je regrette, c'est d'être l'ambassadeur du rugby et d'en avoir jamais reçu les émoluments, parce que j'ai jamais été payé pour être ambassadeur du rugby. Non, en réalité, je suis l'ambassadeur du rugby, non. J'aime le rugby, je crois l'avoir servi dans la mesure de mes moyens, aidé, et ô combien par Pierre Albaladejo qui m'a apporté le côté technique indispensable que je ne possédais pas. Mais pour l'aimer, je pense que personne ne peut plus l'aimer que moi. Ou alors qu'il lève le doigt.
Zézé, parce qu'on vous appelle Zézé. À Souillac, partout, à Mauvezin, on vous appelle Zézé.
Oui, Zézé. Dernière... Je disais Rosé. Rosé Coudert. Comment t'appelles-tu? Rosé Coudert. On m'appelait Zézé, voilà.
Bien, alors une dernière fois, vous nous dites allez les petits.
Mais je veux dire deux fois. Je dis allez les petits, comme ça.
Et en fait, dans cet extrait, il inaugure un espèce de panneau avec écrit les petits, qui dit qu'il allait deux fois. Et alors, peut-être le mot de la fin pour Albaladejo qu'on n'a pas fait parler, qui était son acolyte de toujours, qui dit Roger, c'était la fantaisie. Avec lui, il fallait toujours que j'enlève une quinzaine de mètres sur les coups de pied, que je rajoute un nom, que je calme le jeu. Et ça fonctionnait comme ça. Je crois que les gens aimaient bien. Bah oui, ça c'est sûr, on aimait bien, on adorait même. Allez les petits, Roger, malgré les 70 ans qui nous séparent, tu nous as fait vibrer et tu nous manques. Vive le rugby et vive Zézé.
Oui, vive Zézé, merci beaucoup. Thibaut. Et pour continuer, je vais passer la parole à Chloé, parce que dans ce monde encore très masculin, hein, vous le savez tous, et bien de temps en temps, ça fait du bien d'entendre des voix de femmes. Donc de qui vas-tu nous parler, Chloé?
Alors, je vais parler d'une femme, oui, effectivement, qui a, à mon avis, fait chavirer les cœurs et les scores, notamment sur Canal+, ces dernières années. Et on va tout de suite découvrir qui c'est avec le premier extrait que j'ai sélectionné.
Nathalie Iannetta intègre en 1995 la rédaction de Canal+. Elle travaille pour l'émission L'Hebdo et présente régulièrement des flashs d'informations.
Non mais ça va
pas. C'est horrible.
Ça va pas le faire. Je suis désolée. C'est pas du tout ce que je voulais.
Ce serait génial que ce soit ça, que des extraits comme ça.
Du coup, je pense qu'on va plutôt la laisser s'exprimer elle-même.
Non, non. Tout de suite, je me suis dit, voilà, moi, je suis curieuse et j'aime raconter des histoires aux gens et j'aime connaître leur histoire. Donc, le métier qui se rapprochait le plus, c'était celui de journaliste. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, parce que la vie c'est souvent des rencontres et de la chance, lorsque j'ai commencé mon métier de journaliste à Canal+, il y a un patron de rédaction de sport qui s'appelle Charles Bietri, qui s'est dit la petite en bas, Rital, qui parle fort et qui la ramène sur tous les sujets de foot, pourquoi on lui proposerait pas de venir travailler avec nous l'année de la Coupe du Monde? C'était la saison 97-98. Je vous passe que derrière il y a eu, comme qui dirait, une espèce d'euphorie collective qui m'a permis voilà, de travailler dans ce monde-là. Mais c'était pas un plan de carrière, j'ai toujours aimé le foot, je suis née là-dedans. Vous savez, en Italie, on vous donne un trousseau quand vous vous mariez. Et ben, quand vous naissez, on vous donne un trousseau. Il faut aimer la nourriture, le cinéma, la politique et le football, parce que tout ça, c'est la vie.
Ouais. Et oui,
et tout parler, ça, et c'est parler avec ses mains aussi, à ton repas.
C'était mieux ce second extrait, dis donc.
Ah, ça y est, on a droit d'être raciste aujourd'hui.
Ah bah ouais, à l'espagnol, c'est encore...
Oh, on a
les espagnols, tout de suite.
Pourquoi les attaquer, les pauses espagnoles?
Et tout ça, c'est la vie. Et oui, parce qu'en fait, moi, je devais enchaîner après l'extrait, mais ça m'avait coupé. D'ailleurs, la sienne commence le 15 mai 1975 à Paris. Donc, elle est, comme elle l'a dit, d'origine italienne. Et sa passion pour le foot lui vient du temps qu'elle a passé à regarder son papa, qui était gardien de foot.
Ah.
Et oui, elle était déjà dans les gradins. Et peut-être qu'elle faisait déjà des petits commentaires, on ne sait pas.
Sûrement.
Donc elle a passé une licence d'histoire et une maîtrise des sciences politiques à la Sorbonne. Donc c'est plutôt une tête, Nathalie, qui a rejoint l'hebdomadaire Le Républicain de l'Essonne. Mais ça n'a duré qu'un an, puisqu'après elle a rejoint la rédaction de Canal+, pour l'émission L'Hebdo, et elle commence même à présenter des flashs d'information. Deux ans plus tard, elle va rejoindre Vincent Raduro pour le journal du foot, il semble qu'on en parlait tout à l'heure, et également Soir d'Europe, avec quelqu'un dont on a déjà parlé, Thierry Gélardi.
Mmh.
Eh ouais. Donc en 98, elle l'a un petit peu évoqué, elle présente les directs lors des matchs du championnat de France, et bah, c'est l'effervescence, parce qu'il y a une compétition, j'ai pas compris ce que c'était.
Mmh.
Et du coup, pendant la saison 2000-2001, elle présente la rubrique sport dans l'émission Le Matin, présentée par Alexandre Devoise. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs, elle aurait également tenté une percée en tant que comédienne dans les années 2000. Malheureusement, j'ai trouvé aucune image de cette petite chose, donc si jamais vous en avez, on cherche donc un film qui s'appelle 2000 Boulevard du Foot, et c'est avec également Vincent Raduro et d'autres personnes de Canal+, je crois que c'est une petite production de Canal.
Et on cherche un spectateur.
Et du coup, 2001-2002, elle présente Samedi Sport, donc qui se passe le samedi soir.
Ah,
et
si
oui.
Je voulais le dire. J'ai pas
c'était un piège, ça avait eu le lundi.
Ah.
Et elle y parle de quoi, Sarah?
De foot.
Oui, bah de sport, mais sport. Voilà.
Bah oui, samedi sport.
Le samedi, elle parle de sport.
Tu vois, comme quoi, Chloé, même quand tu fais des pièges à Sarah, ça marche.
Et du coup,
ah,
la...
génial. Chut. Que la couleur du cheval blanc d'Henri IV,
vert. Samedi sport, Sarah, ça parle de samedi.
Et non, c'était l'autre.
Et du coup, la saison suivante, c'est toujours samedi sport, mais au lieu d'être le soir, c'est l'après-midi. Mais ça, c'est pas dans le titre, t'aurais pas pu le deviner.
Mais c'est le samedi et ça parle de sport.
Oui, c'est samedi et ça parle de sport. Saison 2004-2005, elle présente Jour de foot avec Stéphane Guy.
Rugby. Non, je sais pas.
En tout cas, il y a un ballon, c'est déjà ça. Donc c'est chaque samedi en deuxième partie de soirée. Et en parallèle, bah, elle fait aussi une chronique dans Nous ne sommes pas des anges de Maïté Nabiraben, parce qu'elle est dans toutes les émissions Canal+, de toute façon, Nathalie.
Mais elle est incroyable.
Elle est là toute la journée, le matin, le soir, chez Maïté Na, avec Vincent. Elle est partout. Dès qu'il y a une petite ouverture, Elle y va. Alors, mais il n'y a pas que du sport dans la vie de Nathalie. À partir de 2007, avec les élections présidentielles françaises, elle va co-animer avec Laurent Bazin Élysée 2007, avec le débat entre les deux personnalités politiques.
Ça parle de l'Élysée
qui se présente à l'élection présidentielle. Voilà, c'est ça. Et c'est tous les mercredis, mais c'est pas précisé. Été 2008.
Elle est pas bête, Sarah, sinon ça s'appellerait mercredi Élysée matin. Hein.
J'espère que je pourrais faire des phrases en entier. Été 2008, elle quitte iTélé, elle revient sur Canal+, elle remplace Hervé Matou à la présentation de l'équipe du dimanche. 2010, elle laisse sa place à la tête de l'équipe du dimanche pour rejoindre les spécimens sur Canal+ Sport. Il y a des canals partout, des canaux même. À la rentrée 2012, elle présente la nouvelle émission du Canal Champions Club, pardon. Également la matinale les vendredis. Et en plus, elle retrouve le format samedi sport sur Canal+, où on va entendre dans cet extrait, elle est avec Isabelle Iturburu.
Ça y est, on revient en rugby avec vous, oui. Isabelle Iturburu. Salut Isa.
Bonjour Nathalie, bonjour.
Vous êtes revenue de Brive, où il y a eu un petit coup de tonnerre hier soir. Clermont est tombé.
Oui, alors on pouvait s'y attendre, parce que même avec 180 km de distance, on peut vraiment appeler ce match un derby. Oui. En tout cas, il y a eu tous les ingrédients hier soir, et on rappelle que Brive avait besoin de cette victoire pour assurer quasiment son maintien, et on n'a vraiment pas senti de complexe d'infériorité du promu face au grand Clermont. Mais la joie, elle était du côté des brivistes, bah oui. On le disait. Mathématiquement, c'est pas fait, mais vous allez voir que Nicolas Godignon sent qu'on le retrouvera l'année prochaine en top 14.
Ça sent bon.
Et voilà, comme t'avais dit, samedi sport, Sarah, c'est rugby. Je te l'avais dit.
Voilà.
À la rentrée, alors juste petite précision aussi, à cette époque-là, elle va être aussi ministre pour François Hollande, ministre des sports.
Enfin, pas ministre des sports, mais
elle est conseillère.
Non, elle n'est pas ministre, oui, elle est dans le cabinet, non ?
Elle est
dans le cabinet.
Conseillère sport à l'Élysée.
Ah voilà, c'est ça.
Du président.
Donc ouais, ce qui est pas mal, elle est conseillère sport de François Hollande, ouais.
Moi j'adore les placer ministres.
C'est
chez Mignon.
Moi mon ministère, c'est que des sportifs. Hein, ça,
Nathalie Yaneta, pardon, après je te reprends. Quand Gilardi, puisque j'ai fait Gilardi il y a l'année dernière, et il y avait un très bel hommage de Yaneta, parce que Gilardi c'était un peu son mentor. Ouais. Moi j'adore Yaneta, je suis fou amoureux de Yaneta, faut le savoir. Elle avait dit, je l'avais vu en direct à l'époque sur une émission de Canal, elle avait fait des choses magnifiques sur Gilardi, et j'ai cherché cet extrait tout le long pour pouvoir la mettre du coup pour Gilardi. J'ai jamais trouvé, donc si jamais vous voilà,
mais ça doit être avec 2000 boulevard du Fou.
Voilà, tout ça pour dire qu'elle avait trouvé les mots justes, et j'avais beaucoup aimé.
Ah mais elle parle très très bien, cette femme est fascinante. À la rentrée 2013, elle va remplacer Astrid Barr dans le Canal Football Club pour parler de la Ligue des Champions. ça m'a saoulée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais elle a été pas mal récompensée pour son travail, puisqu'en 2012, en 2013, elle va recevoir la Lucarne d'Or. Voilà, pour son travail journalistique. Je trouvais ça plutôt stylé. Elle va être aussi pendant un an, entre 2020-2021, en tant que directrice de la communication au sein du groupe GL Events, donc qui s'occupe de pas mal d'événements sportifs.
Gros groupe.
Mais elle quitte ainsi que ce qu'elle fait à TF1, elle quitte tout en 2021, en septembre, parce qu'elle est nommée directrice des sports de Radio France.
C'est quand même la classe.
C'est quand même la classe. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur YouTube, elle participe à pas mal de comme des petits procès, en fait, pour essayer de modifier un petit peu l'approche journalistique sportive dans les médias français. Donc c'est hyper intéressant tout ce qu'elle fait. Et puis surtout, elle a une grosse mission. C'est un petit truc dont on a parlé et qui va bientôt arriver. Mais elle a un projet qui lui tient à cœur, c'est les JO 2024. Voilà, vous avez peut-être pas entendu parler, hein, c'est pas hyper
populaire.
Mais elle, ça lui tient vraiment à cœur. Et on va d'ailleurs l'écouter en parler. Ici, c'est sur le plateau de TF1 en 2018, après la deuxième étoile française.
Mais oui, sur quoi? Mais Nathalie, tu butes sur quoi là? Avec toutes les super idées que tu as, tu butes sur quoi?
Tout le monde a ces idées-là depuis longtemps. Le problème, c'est que l'énarchie et le système est dirigé par des gens intellectuels pour qui tout ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance.
Tout ça est subalterne.
Ils n'y croient pas. Là, ils vont y croire. Mais ils vont y croire à moi. Voilà, c'est ça le problème. Évidemment que je ne suis pas la seule. Des dizaines de personnes qui ont travaillé dans le modèle de l'État, quelles que soient les couleurs politiques, ont essayé, des ministres, des conseillers, des directeurs de cabinet. C'est difficile à faire changer. Peut-être on va y arriver grâce à la deuxième étoile, grâce à Paris 2024, et parce que quelques-uns d'entre nous, Basile en fait partie, on renoncera.
on renonce pas à ce combat.
Super.
Et on va le gagner.
En tout cas,
le combat, c'est faire changer la manière dont on parle du sport, c'est ça?
Il y a faire changer la manière, mais surtout, en fait, il y a la manière d'appliquer le sport. Là, elle parle en fait beaucoup des enfants dans cet extrait et de la manière dont les enfants français ne sont pas tellement sensibilisé au sport par rapport aux autres pays européens. On a énormément de, ne serait-ce que par rapport à l'Allemagne, on a énormément de retard, et elle, c'est vraiment un point d'exemple sans qu'elle combat. Cite beaucoup. Donc c'était ça en fait dont elle parlait énormément. On sent que, je pense qu'il y a, elle en a gros sur la patate de ce qu'elle a vécu un petit peu au sein de, du gouvernement. Elle a dû avoir pas mal de portes fermées, et du coup c'est pour ça que je pensais que cet extrait était intéressant. Et avant de conclure avec mon dernier extrait, je crois qu'Olivier, tu avais une petite anecdote sur le compagnon.
On va pas parler du compagnon alors qu'on fait une voix féminine, mais malgré tout, c'est parce que c'est Nathalie Yaneta encore qui m'a fait rire, parce que j'imagine très bien, parce que elle est mariée avec Jean-Charles Sabaté, qui est commentateur notamment spécialiste pendant longtemps du foot allemand sur Jour de foot et sur Canal, et il y a une chute mémorable pour les supporters de foot que je vous ai montré pour certains qui ne la connaissaient pas avant, une chute mémorable sur le plateau de Jour de foot de Jean-Charles Sabatier.
On vous la conseille quand même.
Joyeux Noël, on va vous la mettre parce que c'est vraiment un bon moment à chaque fois. Et en fait, donc, il en parlait pour SoFoot ou je ne sais pas quel média de presse, et il disait qu'à chaque fois, Nathalie, quand il en parle à Nathalie Yaneta est morte de rire pendant 25 minutes chez elle en repensant à cette chute. Et j'imagine très bien. Voilà, donc ça rajoute au personnage de Nathalie Yaneta que je trouve moi franchement sympathique, en plus d'être talenteuse et très intelligente.
Mais cette chute est vraiment formidable pour le coup.
Et personne n'a été blessé, Sarah.
Non, je sais. Enfin, tout va bien.
Les genoux quand même de Sabaté ont dû prendre un peu.
Et je vais faire une petite conclusion avec un dernier extrait. Alors c'est pas Nathalie Yaneta, mais c'est un autre sportif et présentateur qui a des recommandations par rapport au petit virus.
Faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour lutter contre les virus, c'est bon pour lutter contre toute forme de maladie.
Voilà, merci Vicente. On fait du sport et on n'a pas de virus.
Ça, c'est génial. Ah, je suis contente qu'on ait des vraies recommandations sanitaires dans ce podcast.
Bah, Vicente,
des spécialistes. Okay, oui.
Le nouveau ministre des Sports,
oui, il a succédé à Yaneta. Hein. C'est Chloé qui nous a fait parvenir la bio.
Marie-Josée Pérec, Nathalie Yaneta.
Mon ministère, que de numéro 10. Oui.
Bon, faites du sport, c'est bon pour la santé, mais je suis pas sûre que ça vous protégera du Covid. En revanche, et avant de passer à la suite, et pour reposer nos très belles voix, des grandes voix du sport, elles aussi, eh bien, il est l'heure d'une petite pause musicale.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Écoutez, Olivier.
Eh bien, c'était The Ramones, Merry Christmas, I Don't Fight Tonight. Elles l'ont dit à peu près 14 fois, si vous l'avez bien
écouté. Si vous l'avez bien écouté.
Voilà, voilà.
Eh bien, Olivier, comme tu as la parole, je te la laisse. Quelle loi du sport as-tu choisi de partager avec nous aujourd'hui?
Eh bien, moi, j'ai un peu triché. J'ai un peu triché car ce n'est pas un commentateur à proprement parler, même s'il a touché à tout. Il a notamment été commentateur.
Bah, il était ministre, moi.
Ah non, il a pas tout. Alors oui, bah bien sûr, il était ministre évidemment des sports. Il va très bien compléter. Vous allez voir, et je suis très content. Roger Couder, il est venu un peu après. Je vais vous proposer une petite balade douce, bucolique, une balade qui sent bon le sud, la joie de vivre et les grosses et belles valeurs de l'Ovalie. Je vais vous parler d'un homme qui connaît aussi bien ses valeurs que son indéfectible bandana rouge accroché au front, un homme qui a été élevé dans la sueur, le muscle et qui ne reniera jamais l'importance de ses frères d'armes. Alors je ne parle pas de Rambo, Thomas, mais bien de Daniel Herrero.
Oh.
Pour faire simple, Daniel Herrero, après Roger Couder, c'est le rugby. Voilà, c'est simple. Hein, voilà, c'est tout. Bah, allez, on passe.
Mais c'est très vrai.
Voilà, c'est le rugby un peu fantasmé où violence côtoie bon mot, où esprit de camaraderie et, côtoie grosse tatane dans la gueule, et où de toute façon, tout est oublié lors de la fameuse et très importante troisième mi-temps.
Ma préférée. La seule à laquelle je joue d'ailleurs.
Mais la préférée de Daniel Herrero aussi, hein, vous allez voir. Et le rugby est un monde où l'on se rencontre plus qu'on ne se croise. Voilà, c'est une phrase de Daniel Herrero très connue. Pour moi, la voix de Daniel Herrero, c'est la voix de ce rugby chantant. Daniel Herrero, petit-fils d'immigrés espagnols, un père ancien pilier, hein, donc a priori une belle bête, deux sœurs et trois autres frères qui seront comme lui. Joueur de rugby, ouais, donc quand je dis c'est le rugby, je blague pas. Hein. Et alors qu'il est né dans l'Hérault, c'est dans le Var qu'il va grandir, à Toulon qu'il va se faire aux aléas de la balle ovale. Et déjà, quand il se remémore ses souvenirs, sa verve ciselée fait des ravages. Écoutez plutôt.
Tu pourrais dire, t'as 14 ans ou t'as 13 ans, tu joues avec une bande de collègues du quartier ou de la ville dans laquelle t'as grandi, tu prends le premier bus pour aller jouer à Carquéran quand t'es de Toulon ou pour aller jouer à Beaulieu quand t'es de Monaco, tu vois, et tu prends le bus et c'est une aventure colossale. Et quand tu rentres sur le terrain avec les collègues, avec le vieux short de ton père, et ça c'est une aventure colossale. Ça me marque et ça m'émeut encore aujourd'hui. Je le mets dans les bons souvenirs. Mais ça revient un peu à l'image de l'enfance, tu vois ça. Et en même temps, après, derrière, quand même, encore une fois, dans les beaux souvenirs, je sais ce qu'a été le travail d'un entraîneur pendant des lustres, des années, tu vois, pour un jour gagner les huitièmes, gagner les quarts, gagner la demi, arriver en finale, tu vois, 40 000 ou 50 ou 80 000 personnes dans le stade, 30 000 personnes de ton pays qui viennent t'accompagner, voilà, et rentrer sur le terrain en ayant la sensation que tu es en proue d'une aventure sociale, qu'elle est joyeuse, bon, ça va, hein, qu'elle est quand même que autour des rebonds impertinents d'une balle ovale, tu vois, mais quand même, c'est très nourricier.
C'est très nourricier, ce qui est très nourricier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est quand même son phrasé magnifique, oui. Et ses mots choisis. Pourtant sur le terrain, le Daniel, c'était pas forcément un enfant de cœur. Hein. Troisième ligne de centre, donc pour vous situer, c'est comme Chabal, ok, voilà.
Chabal.
Bien sûr, Chabal.
tu vois, toi aussi t'avais envie de la faire.
Il envoyait dur au placage ou dans la mêlée, du haut de son 1m88 pour 85 kilos, donc à peu près comme Younes. et c'est un beau bébé, hein. Tout ça à Toulon, à la fin des années 60, dans une équipe réputée rude. Donc c'était un rude chez les rudes. Ouais, tout à fait. Il fera une carrière tout à fait respectable. Il sera capitaine de l'équipe de France junior, puis deviendra entraîneur avec le RC Toulon. Il gagnera un titre en 87, la plus belle année qui soit. Je ne dis pas ça parce que c'est mon année de naissance,
non,
ou celle
mais
de Sarah.
Parce que c'est la mienne et c'est le plus beau.
Et je dis voilà ça. Et je dis pas ça. Je viens de le dire.
N'hésitez pas à tous répéter deux fois ce que vous avez écrit. Hein.
Donc Daniel Herrero a la passion de rugby. Daniel Herrero a la passion de rugby.
Sarah, elle a la passion de quoi ?
Chaque sortie, elle a la passion de, je ne sais pas.
Du samedi soir.
Du samedi soir.
Merci Chloé.
on va voir que dans cet enregistrement, puisqu'il a commenté aussi, hein, c'est un des rares enregistrements que j'ai pu avoir où il commente pour Sud Radio. L'enregistrement n'est pas de très bonne qualité, mais vous allez voir que c'est vraiment un passionné.
De se passer en l'espace.
C'est quel France All Black celui-là?
Eh bah ben justement, devinez, Richard Dourt, essaie. Allez, on a fait un EPO là-dessus.
Ah
allez,
oui, ah, moi je le sais.
France All Black 99.
Et avec Bernard voilà, Salle, donc.
Avec,
c'est ça.
Avec Bernard Salle, bien sûr, oui, pardon.
Ben, je voulais pas.
43-31, ça nous envoie en finale. Et donc, les All Blacks ont le moral sous les couilles, comme il le dit si bien. ce qui est rigolo avec Herrero, c'est que plus il va le prendre de l'âge, plus il va délaisser son image de joueur brutal pour emprunter un costume qui va faire sa renommée, qui ne le quittera jamais, celle d'un homme passionné, passionné de philosophie, passionné de bons mots, passionné de vie, en fait, finalement.
C'est
beau. Bah oui. Il peut agacer un petit peu parce qu'il a une image de chaman avec sa grande barbe blanche à la Gandalf, son bandeau et son parler poétique, notamment toujours envers sa ville de Toulon, hein, qu'il érige vraiment plus haut que le reste, forte et orgueilleuse. N'empêche qu'il a énormément contribué, selon moi, à positiver l'image du rugby. Positiver dans le sens où ces mots merveilleux ont fait aussi beaucoup pour le rugby, mais un peu comme Roger Coudert, finalement, je trouve qu'ils se rejoignent beaucoup ces deux-là. Donc voilà. Et voilà. Et aussi, on sort aussi du sportif qui est con comme une nouille, pardon, mais voilà, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup.
Il y en a des biens. Ouais.
Sa carrière parle pour lui. Alors, il est désormais conférencier avec des speeches fameux ici et là. Il a écrit aussi de nombreux ouvrages.
Ici et là.
Et avec toujours le même centre d'intérêt, hein, l'humanité. Il adore ça. En 95, par exemple, l'extrême droite prend Toulon. Il est au fond du bocal, il est consterné et il va écrire Petite histoire racontée à un jeune du Front National. Voilà, où il va essayer de convaincre, en tout cas d'expliquer certaines histoires que l'électeur du Front National ne pourrait pas entendre. J'ai un extrait encore un poil long qui selon moi présente bien le personnage. Ferrero, il parle violence et valeurs du rugby.
La violence a plein de synonymes. L'agressivité, l'ardeur, le tempérament, le courage, la générosité, la vaillance, le papédé, tu vois, tous ces synonymes-là jusqu'au plus ordinaire. Il y a tout un univers comme ça dans le monde rugbystique, métaphorique, sur tout ce qui sera la sacralisation du courage, le rudoyant. La violence, c'est la transgression des lois. Le jeu de rugby, c'est un jeu légiféré. Il est né dans un état de droit, dans l'Angleterre industrielle, tu vois, et il a irradié le monde à partir de l'idée que si on a un certain nombre de lois, depuis 1841, on a 5 lois. En 1874, on en a 50, et maintenant on en a 5000. Il y en a 4900 de trop, peu importe, tu comprends l'idée. Mais il y a des lois, ce qui fait qu'on peut jouer le même à Hong Kong, au fin fond de la Patagonie ou au cœur du Botswana. Bien, ces lois-là, tu vois, font que, en rugby, on a décidé en 1830 que le hacking, on n'avait plus le droit. Tu vois, le croche-patte dans la tête, on n'avait plus le droit. Le coup de pompe dans les guibolles, c'était interdit. Voilà, bon, mais on a décidé, à partir de 1871, que la fourchette, c'était pas bon. C'était pas humain. On a décidé que la cravate, en 1920, tu vois, la cravate, au niveau de la gargante, c'était moyen. Tu vois, on a décidé que le coup de genou dans la tempe, c'était encore bon jusqu'à 1995, par exemple. Donc, le genou dans la tempe. Tu vois, le coup de courge dans la côtelette sur un mec au sol. Donc, il y a des lois. En fonction de ces lois, le rugby, il est maçonnique. S'il est maçonnique, il est pensé pour on peut construire et détruire. On peut bâtir et user. On peut mettre ensemble ces deux problématiques dans l'aventure humaine pour créer du lien et des frères. Ouais. Donc, si tu veux, la meilleure façon de créer du lien, c'est de générer du danger. C'est militaire, ça. Pour générer du danger, on a inventé un jeu où il y a du danger. Quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu ne sais jamais comment t'en sors. Hein. Mais comme il y a du danger, le solitaire va devenir obligatoire. On va penser des règles qui vont inviter au solidaire. Au solidaire, pas au solitaire. Hein. J'ai fait un lapsus tout à l'heure. Au solidaire. La règle, c'est pour aller vers l'avant où il y a le danger, tu le regardes, le danger. Ne t'en éloigne jamais. Mais tous tes collègues sont toujours derrière toi. Tu seras obligé de faire la passe en arrière, comme ça tu auras tous tes collègues derrière. Le solidaire est une loi absolue.
C'est génial, oui, c'est trop beau.
Oui, c'est magnifique, oui, c'est magnifique. Le fameux coup de courge dans les côtelettes, ça doit faire mal.
C'est là où on voit vraiment, comme tu dis, c'est un philosophe. C'est
ouais.
Vraiment,
voilà. Mais oui, il a fréquenté beaucoup de cafés philosophiques, etc. Il est très ouvert sur le monde, sur son sport, mais aussi sur le monde. Par exemple, il prendra beaucoup sur le rugby féminin. Il ne comprend pas pourquoi le rugby féminin... Enfin, il dit qu'il devrait avoir sa place exactement comme le rugby masculin, malgré que...
Grand homme.
Mais dans le sens on pourrait penser que le. Ouais, bien sûr, il regrette la vieille tradition machiste de la France. Il est par ailleurs vice-président des Amis de l'Humanité et ambassadeur de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
En fait, il est jamais là où on l'attend. C'est peut-être dû au fait qu'il adore voyager. Il voyage tout le temps à la découverte de toutes les cultures. Herrero est avide de savoir, de rencontres, d'aventures. On raconte que ce caractère s'est développé grâce à mai 68. Et là, ça rejoint un peu coup d'air.
Ah, c'est
et
mignon.
Oui, car ce que Herrero a évidemment participé à 68, a évidemment balancé de la caillasse sur les voitures de police. Et les dirigeants de Toulon, voilà, qui l'ont su, lui ont privé de finale de championnat, voilà, contre Lourdes. Il y avait Lourdes à l'époque au rugby. Voilà, et du coup ils l'ont privé de filage de finale. Et c'est là, c'est lui-même qui le dit, qu'il y a eu un déclic et qu'il fallait qu'il voyage, fallait qu'il découvre d'autres cultures. Et c'est là aussi peut-être qu'il y a eu son fameux bandana. On n'en sait rien car lui est toujours, je l'ai dit tout à l'heure, accompagné de son bandana rouge. Et il y a Frédéric Taddeï sur Europe 1 qui lui a posé la question de savoir pourquoi ce bandana rouge tout le temps. Voilà sa réponse.
Moi qui suis fils d'immigré espagnol, assez tôt, j'ai pas l'exil au cœur, mais j'ai le goût de l'ailleurs un peu au cœur, assez tôt de ma vie, quoi. Même quand j'ai pas allé à l'époque, non pas de mes misères familiales, mais tu vois, où les aisances financières sont basses. Mais en fait, je suis assez bon, sportif, je gagne quelque peu et je vagabonde. Et en vagabondant, ça me séduit quand même, quelque part. Ça me séduit. Je vais en Inde, tu vois, dans la période 68arde. Je vais sur les terres latino-américaines. Je vais en Bolivie le lendemain de la mort du Che. Enfin, voilà, je le mets. Mais il faut dire que je le mettais aussi quand j'étais joueur de rugby. Je mettais le bandeau sur le terrain, un, parce qu'il me tenait la tignasse, deux, parce qu'il donnait une forme d'allure qui n'était pas déplaisante, tout au moins à mes yeux, quoi. Je me suis aperçu que je ne sais pas, mais c'est un narcissisme parfois régressif et qui m'inquiète, que ça ne m'allait pas mal, ou tout au moins je le ressentais comme tel.
Mais c'est vrai.
Je le
c'est
ressentais vrai. Comme tel. Non, je ne suis pas formel, frère. Mais moi, je le ressentais comme tel.
Voilà. Super. Que dire après ça, si ce n'est Daniel Herrero, laisse-moi voyager avec toi, s'il te plaît.
C'est beau. Merci Olivier.
Et on vous conseille pour vos cadeaux de Noël le dictionnaire amoureux, qui est vraiment exceptionnel du rugby de Herrero.
C'est vrai. Ouais. Ah bah, c'est merci vrai pour, livre, pour ces conseils. C'est des super conseils. Et pour finir, je me tourne vers toi, Thomas, et je crois que tu n'as pas choisi une voix, mais un duo quasiment.
Alors, un duo, et après, je dois admettre que je me suis recentré sur une personne, mais c'est vrai que c'est un duo. Et tout ça part d'une anecdote. En fait, cette anecdote, c'est l'histoire de ma vie, tout simplement.
Voilà. Je suis né le...
Je suis né le... Non, c'est, j'ai été en coloc, et à 3h du matin, histoire vraie, mon coloc m'intercepte avec le casque de PlayStation sur les oreilles, et je suis en train de dire exactement ça. Combien il me reste de tours à faire avec les gommes tendres ? Donc mon coloc me regarde avec des yeux écarquillés, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là ? Et il entend derrière, je joue à la Formule 1 là, tu vois, et puis d'ailleurs, enfin laisse-moi, parce que bientôt je vais devoir rentrer au stand parce qu'il ne me reste pas beaucoup de place. Il me dit, mais non, mais on ne joue pas à la Formule 1 à cette heure-là, et puis bon, demain il y a foot, donc il faut qu'on aille se coucher. Eh ben non, puisque demain, week-end de Formule 1. Il faut savoir que donc, ça a été une nouveauté pour moi. Et ben, j'ai décidé de parler de Formule 1 aujourd'hui et de Julien Febbraud et de son petit camarade Jacques Villeneuve qui depuis très peu de temps, mais on va dire moins de 3 ans, me font vivre des week-ends extraordinaires. Moins de 3 jours. Non, depuis moins de 3 ans, me font vivre des week-ends vraiment extraordinaires.
Ah, ça me plaît.
Et d'ailleurs, pour rentrer dans le vif du sujet, je propose qu'on écoute une petite phrase mythique.
17e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, l'avant-dernier de cette saison 2019. Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Alors, on se donne rendez-vous au premier virage, donc on va attendre un petit peu. Les voitures ne partent pas. Bref, cette phrase-là, le rendez-vous au premier virage, c'est vraiment la phrase de Julien Febbraud. Et il l'a dit à chaque Grand Prix. Alors parfois, il met. Ça, d'ailleurs, j'aime pas. Il y a de temps en temps, il fait des petites blagues. Monter le volume, pousser les meubles. Non, garde la phrase.
Ça
m'agace.
Conseil.
Voilà, ça m'agace.
Si tu nous écoutes, Julien.
Non, voilà, Julien, qui nous écoutera, c'est sûr, parce que je vais le contacter pour lui dire tout ce qu'on va lui dire maintenant.
Mais tu lui envoies une copie de ton texte, non, de toute façon.
Je lui envoie une copie. Tu vas voir la suite, ça va dans ce sens-là. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai été happé par le foot depuis 25 ans et je dois vraiment à Julien Febbraud d'avoir changé mes week-ends à moi. Et aussi à mon amoureuse, puisque on est très assidus tous les week-ends de course.
Donc, et divorcé, du coup.
Bah, pas divorcé, parce que nous faisons ça ensemble, j'ai beaucoup de chance. Et bah, je tenais donc à lui adresser une petite lettre.
À ton amoureuse ou à Julien ?
Ah non, là, pour mon amoureuse, c'est déjà fait, depuis un moment. Et,
mais je vais la lire aussi.
Monsieur Febbraud, voilà. Cher Julien, Toi qui es né en 89 à Rennes, tu es comme moi fils de pilote automobile. Ton papa sur circuit et le mien sur l'autoroute ou le périphérique. Ta plus belle décision est de devenir journaliste sportif et d'être embauché par RMC. Je rajoute un petit peu des lignes entre mon texte. Heureusement que tu es parti d'RMC parce que maintenant il y a Jérôme Rotten, mon deuxième idole. Ça ferait deux idoles au même endroit, ce serait problématique. En 2005, pour être reporter donc sur les Grands Prix, c'est là que tu pars d'RMC. Et à cette époque, je ne te connais pas. Je suis préoccupé par les mois de novembre du PSG et je me prépare à vivre un drame dans ma vie. Le plus grand drame sportif, Materazzif, en juillet 2006. C'est un traumatisme dont je parle à chaque épisode et c'est toujours pas digéré. En 2009, Julien, tu fais un petit crochet sur Europe 1, puis tu rejoins la rédaction du journal L'Équipe, c'est un journal de sport, je crois, en 2010.
Ça parle d'équipe apparemment. Voilà, parle de
demandons à Sarah.
D'une équipe.
Uniquement de sport d'équipe d'ailleurs, apparemment.
Alors, en parallèle, j'avoue ne pas avoir suivi tes courses de rallye cross où tu as gagné en 2011. Apparemment, c'est très célèbre. C'est l'étape la plus prestigieuse à l'Oélac. Voilà, je ne savais pas qu'il avait gagné ça. Et bon, il faut savoir que Julien Febro conduit un peu des voitures. Donc, de rallye, je ne suis pas du tout expert. Je crois juste que c'est des 4 roues motrices. Enfin, je ne veux pas dire.
Pourquoi c'est moi que tu regardes comme ça, Thomas.
Ça fait, en fait,
comme
ça fait,
si j'allais te répondre.
Ça fait beaucoup de fumée derrière. C'est,
à la limite, tu peux dire à Sarah, c'est du 4 roues motrices. Sarah, combien de roues sur ces voitures
Le et fait là... est que. Il a donc gagné quelques courses et il est pas mauvais. Il n'est pas non plus champion du monde, sinon il ne ferait pas commentateur, mais bref.
Mais pas mal quand même.
Fin 2012, Canal Plus récupère les droits de la F1. Là. Mon cher Julien, tu deviens commentateur attitré et tu as comme petit camarade de jeu Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1, d'accord, avec, si je ne dis pas de bêtises, l'écurie Williams, qui est d'ailleurs le dernier champion du monde à être champion du monde avec les Williams. Les temps ont changé.
Il y a les sœurs aussi. Maintenant. Les
ça, j'allais Williams, faire la même blague.
Cher Julien, je dois admettre qu'à cette époque, je ne suis toujours pas fou furieux de la F1, ni mes amis d'ailleurs, mis à part Younes, passionné de sport mécanique depuis la création de l'automobile. Le soir, pendant les informations, j'entends de loin une rivalité entre un certain Rosberg et Hamilton, mais j'avoue ne pas y prêter forte attention. Je fais comme si c'était il y a très longtemps, mais ça c'est en 2016, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que toi, Julien, avec ton camarade Jacques, tu fais déjà vibrer les autres. Mais un jour, je décide de me lancer dans la fameuse série Netflix... Il faut quand même la citer parce qu'elle m'a quand même beaucoup aidé. Elle a aidé beaucoup de gens. Oui. Drive to Survive. Il faut dire que voilà, je pense que ça a fait découvrir la F1 à beaucoup de personnes. Moi le premier, puisque dans la foulée, j'achète même le jeu vidéo F1 2019. Formidable. Et je me dis que waouh, c'est trop cool la voiture. C'est décidé, Julien. Je vais regarder le prochain Grand Prix. Et peut-être que tu pourras me faire vibrer autant que le commentateur américain qui crie tellement fort qu'on croirait qu'il commente un film de Steven Seagal. Alors ça, c'est vrai. Le commentateur américain de Netflix, c'est incroyable. Wow, Verstappen ! C'est la folie. Voilà, il crie à chaque moment. Cher Julien, notre rencontre a lieu sur ce Grand Prix.
Il va devenir le patron de la Scuderia. Tout le monde se masse sur les grillages avant la parabolique. Il lui reste une ultime accélération. La légende de Monza, la légende d'un jeune garçon qui s'impose à Monza. Deuxième victoire. Charles Leclerc, victoire de Charles Leclerc en Italie, victoire de Ferrari. Voilà 9 ans que ça n'était plus arrivé. L'explosion de joie du clan Ferrari, du clan Elkan, de tous les tifosi. L'Italie a le cœur rouge aujourd'hui. L'hymne monégasque dans quelques instants pour la deuxième fois. Les mains sur le casque de Charles Leclerc. Il a gagné au volant d'une Ferrari à Monza. Il a tenu face aux ogres allemands de Mercedes, d'abord face à Hamilton, ensuite face à Bottas.
À partir de ce Grand Prix, donc c'est Monza, hein, pour ceux qui l'auraient reconnu, donc c'était quand même quelque chose d'assez fou pour Leclerc, mais on ne parle pas de Leclerc, mais bien de Febro et de Villeneuve. À partir de ce Grand Prix, bah, j'avoue que je n'ai pas raté un Grand Prix, vraiment pas, je les ai tous regardés. Et je dois admettre, mon cher Julien, que votre duo, bah, il est hyper mignon, il est solidaire. Moi, j'adore quand tu t'excites un petit peu sur les voitures et qu'il y a ton camarade flegmatique Jacques Villeneuve juste à côté de toi. Et puis, grâce à toi, Julien, je me rends compte que Verstappen, dans la série Netflix, il est très méchant. Et ben, en fin de compte, je me rends compte que c'est un super pilote, qu'il est vraiment très très fort. Et grâce à toi et à Jacques, je deviens fervent supporter de Verstappen. Tu nous accompagnes aussi par tes connaissances de la mécanique et par l'explication simple des règles de la F1. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter Julien Febro, mais je dois admettre qu'il amène les règles de la F1 et le côté mécanique, parce qu'il y a des trucs, des termes assez techniques, genre le MGUK, ce genre de trucs. Et ben, lui, tu l'expliques très très bien, même par rapport à la gestion des pneus. Je trouve que les règles de la F1 deviennent très très simple, expliqué par, par Julien Febro. Je vous invite vraiment à écouter, il réexplique à chaque fois les choses. C'est pas rébarbatif quand on les connaît déjà et c'est hyper instructif quand on ne les connaît pas encore. Donc c'est vraiment intéressant. Et Villeneuve amène le côté un petit peu plus technique de la course. Surtout, Julien, tu apportes ce que tout commentateur doit apporter selon moi. Le commentateur, bon, il n'est pas là seulement pour relater les faits, sinon on s'ennuierait un peu. Il est, comme tu le fais, un diffuseur d'émotions. J'aime particulièrement avoir la sensation de regarder le Grand Prix avec mon pote Julien, parce que c'est l'impression que j'ai, et de partager les mêmes joies et les mêmes craintes. Alors, cher Julien, je suis vraiment désolé de te rappeler ce mauvais souvenir, mais le 29 novembre 2020, tu as vécu et nous a fait vivre un moment qui restera malheureusement gravé dans nos mémoires.
Accident. Il va falloir vite intervenir parce qu'il a complètement perdu le contrôle et il est allé taper de face dans une barrière.
J'ai préparé cet extrait et vraiment les images, elles sont mais atroces. Enfin, la voiture, elle prend feu mais en...
C'est un miracle.
En demi-seconde et ouais, c'est que il va bien.
Il va bien. Alors, c'est, je veux pas spoiler, Sarah, rassure-toi, il va très très bien. Aujourd'hui, il conduit même en IndyCar aujourd'hui, il a les mains brûlées. Mais voilà, il a pu reprendre la course, pas la Formule 1. Parce qu'il faut admettre aussi que les performances sportives n'étaient pas extraordinaires. Mais voilà, c'est, moi, j'admets, c'est le premier accident grave que je vois en F1, en direct en plus. Et pour ceux qui ont vu, et, ou alors ceux qui n'ont pas vu, donc on entend ça. Et derrière, il y a à peu près 2 minutes 50, je crois, de silence. On n'a pas d'image de Romain Grosjean. Parce que pendant tout ce temps-là, il sort de la voiture en feu. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et la première image de Grosjean que tu revois, c'est lui qui monte dans la medical car. Et bah voilà, j'avoue que ce moment, c'était assez important. Et grâce à toi, Julien, toute la communauté F1, elle était suspendue à ta voix pour savoir tout simplement si tout allait bien. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a un reportage Canal+, où on voit que même la famille de Romain Grosjean attend en fait des nouvelles du pilote par le commentateur. Donc là, il y a quand même une responsabilité qui est énorme, parce que quand tu es commentateur de foot, bon, il y a parfois un ahuri qui arrive sur le terrain ou qui jette une bouteille sur la tête, ça fait mal. Là, on parle d'une bagnole qui prend feu à 300 km/h. Voilà, donc ça a été vraiment un moment que je trouve hyper touchant, parce qu'il est resté très pro et il a gardé la tête froide, alors qu'il faut savoir que Romain Grosjean, c'est un de ses amis proches, enfin c'est un de tes amis proches, Julien, parce que je m'adresse à toi, c'est vrai, parce que je souhaite que tu me répondes. Et le fait d'avoir, tu es le parrain d'un des enfants de Grosjean, donc on sait que pour toi, tu as ton ami qui est en train de, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, et ta priorité, c'est de nous donner des nouvelles de Romain et de nous rassurer, avant de te rassurer toi-même. Donc je trouve vraiment que tu as été irréprochable et je suis pas sûr d'avoir une telle réaction et dignité si mes camarades de PO prenaient feu là tout de suite.
Oh non. Voilà.
Non mais enfin on sait
on
jamais.
Chose qu'on va te tester maintenant. Voilà. Thibaut vient ici.
Ça dépend qui moi, non, ça
c'est,
va.
C'est un moment que j'ai trouvé vraiment très 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 beau et il faut savoir que quelques minutes plus tard quand Grosjean est tiré d'affaire, là j'ai pas l'extrait et puis je trouvais que c'était pas essentiel, mais on entendra ses larmes. Il a un relâchement derrière et pour moi ça a renforcé vraiment le côté humain que j'ai avec toi Julien, puisque comme on partage la Formule 1 ensemble tous les week-ends, et ben je trouve que là ça te rend encore plus humain et du coup ça fait une amitié dans les deux sens, parce que là j'étais que seulement ton ami, tu ne me voyais pas, et en pleurant devant moi maintenant on est amis dans les deux sens, et ça, c'est assez
c'est
donc j'étais content que tu voulais bien être mon copain à moi aussi. Donc c'est vrai que c'est ça être commentateur sportif. Bon, je suis désolé d'avoir plombé l'ambiance, Julien. Je voulais pas faire que ça. La même année, tu as vécu un très beau moment et de nouveau, tu nous l'as fait vivre avec une sincérité qui était encore mieux. Et là, tu en as même perdu la voix. Il paraît que ces images ont fait le tour du monde et que ça t'a rendu hyper célèbre, même si tu l'es déjà à mes yeux et à celle de tout le. Mais là, vraiment, il paraît que ça a tourné dans le monde. On peut écouter une incroyable victoire française en plus, 24 ans après celle d'Olivier Panis il y a. Un ou deux ans, je crois, c'était l'année dernière.
Ah, la ligne droite est plus courte que la première, il est un peu loin. DRS ouvert, l'accélération vers Ascari, ce ne sera pas avant Ascari, ça ne peut qu'être après. La chicane d'Ascari, il faut encore tenir. Allez Pierre, il faut tenir jusque dans les derniers instants. Il reste la parabolique tout au bout là-bas. Elle est loin, elle est infiniment loin cette parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer.
Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly, victoire d'AlphaTauri, la victoire française, 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis.
Elle met trop bonne humeur.
Ouais,
cet extrait, ça donne trop la patate.
J'en ai encore des frissons. Julien, je t'avoue que ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux, mon amoureuse avec, alors que bon, on n'est pas du tout fervent supporter de Gasly. Mais voilà, c'était tellement... tu nous as emmenés avec toi et lui en Italie, donc c'était vraiment hyper chouette. Bon, Julien, j'aurais aimé mettre 872 extraits de ta part, parler de la F1 avec toi pendant 4 jours, si c'était possible, mais le temps m'est compté, parce qu'il faut quand même qu'on termine un jour cet épisode. À l'heure où je t'écris cette lettre, tu t'apprêtes à commenter le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais j'ai de la chance, car l'enregistrement de l'émission a été reporté. Du coup, tu as fait Abu Dhabi hier, et on m'a gentiment laissé faire écouter à tout le monde la folie que tu as faite, absolument, c'était dingue. Hier, ce que vous avez fait avec Villeneuve, c'est de la folie, donc on peut l'écouter tous ensemble.
La relance d'ici quelques instants, drapeau vert, et c'est reparti, des gommes fraîches pour Verstappen, des gommes très usées pour Hamilton, comment va-t-il pouvoir tenir le dernier tour de cette saison phénoménale? On ne pouvait pas imaginer ce scénario. C'est parti, il reste 5 km, il va devoir choisir son endroit pour essayer d'attaquer Lewis Hamilton.
On le connaît son endroit.
On le connaît, il l'a déjà attaqué tout à l'heure. Bien placé dans les échappements de la Mercedes, Hamilton.
Il est sorti large, Lewis Hamilton.
Oui, il va avoir beaucoup de mal, il doit soigner, évidemment. Il y va ici, à l'intérieur. Attention, il est passé. Verstappen est passé. Il est passé. Il est en train de redevenir potentiellement champion du monde. Mais il reste une autre ligne droite. Il reste une ligne droite supplémentaire.
Il zigzague, il n'a pas le droit de zigzaguer, attention.
Il va rester à l'intérieur. Hamilton va se porter à l'extérieur. Le freinage, le dernier tour de ce championnat.
Il s'est loupé, Verstappen, il s'est loupé.
Il va avoir le DRS. Hamilton va avoir le DRS. Il reste à l'intérieur, attention, il défend sa position, roue contre roue, il est toujours à l'intérieur, Verstappen, et on est dans la partie sinueuse, incroyable, le titre qui va se jouer ici, c'est fou ce qu'on est en train de voir, il est parti Verstappen, attention, les derniers virages, c'était à celui qui allait finir devant l'autre, et c'est maintenant Max Verstappen, c'est fou, dans le dernier tour de course, les derniers virages, le dernier virage. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Il est champion du monde. Mais non, mais c'est fou.
Inattendu.
Très bon. Mesuré, hein, Julien. Oui. On t'a trouvé vraiment très mesuré, très calme. Et voilà, donc hier, victoire de Verstappen qui devient champion du monde. Petit mot à Max au passage. C'est du néerlandais. Si pareil, s'il veut qu'on prenne contact pour signer un casque et tout, pas de problème. Voilà, donc vraiment hier, encore un moment, qu'on soit supporter de Verstappen ou pas, je pense que Febro et Villeneuve ont fait vivre un moment absolument incroyable à ce dernier Grand Prix, en se laissant totalement déborder, en perdant la voix. Et c'est aussi, personnellement, moi, ça, c'est ce que j'attends d'un commentateur. C'est comme, pour revenir à ce que vous disiez, mes chers camarades, tout à l'heure, je me fiche un peu qu'il soit expert technique à partir du moment où il me fait vibrer, alors qu'encore c'est encore plus beau quand tu es supporter de l'équipe et avec un but de Pavard quand tu peux voir Margoton et Lizarazu. Mais là voilà, je trouve que Febro et Villeneuve, c'est un duo qui marche bien. Du coup, mon cher Julien, en attendant une réponse amicale de ta part, je pars retrouver ta voix sur le jeu vidéo de F1 2021 que tu accompagnes pour ma course du Canada. Je dois admettre que j'ai raté mes qualifs, donc la course est compliquée. PS, je suis chaud d'aller voir un Grand Prix en vrai, j'en ai jamais vu. Si t'as des places, n'hésite pas. Bis bis.
Pour toute l'équipe. Merci beaucoup Thomas. Merci à tous. Et avant de conclure cet épisode de Noël, je vous propose un petit anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc il fallait faire la petite chose.
Et
c'est toi, Olivier, qui nous a préparé une petite surprise.
Mais oui, c'est le quiz de Noël. Oui. Voilà, pour Sarah, tu t'en vas pour le quiz de Noël? Pourquoi tu t'en vas comme ça? C'est incroyable. Tu vas réviser, c'est ça? C'est le quiz de Noël, donc. Et j'ai quelques questions, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 132.
Il y a quoi à gagner?
Eh bien, un pin CFR3 pour toi qui l'a pas encore, et un autocollant EPO, évidemment.
Ah,
pour toi.
Le sticker qu'on me promet.
Bien pour le prochain Grand Prix de Monza.
Et une rencontre avec Julien Febro au Grand Prix du Canada, tout à fait.
Du Canada. Ah,
c'est très bien. C'est voilà. Le circuit.
Ces questions qui reviennent un peu sur notre année EPO. Voilà, on va commencer.
Qui est la plus belle, Sarah? Voilà.
De quoi c'est parti pour Chloé.
De quoi parle Samedi Sport?
Non, c'est
Samedi. Du foot.
Alors en janvier 4 Sport. Nous partons. Alors attends, faut que je tourne un peu l'ordi parce que sinon elle peut voir Chloé. Voilà. Donc janvier, nous avons parlé du Vendée Globe 96, tragique Vendée Globe 96, il y a eu un Vendée Globe il n'y a pas longtemps, c'était le Vendée Globe 2020-2021, c'est Yannick Bestaven qui a gagné ce Vendée Globe en 80 jours. Moi j'ai une autre question pour vous, on va voir si vous avez bien suivi.
La mer était froide.
Qui est la première femme à arriver dans le classement au Vendée Globe 2020-2021 et quel record elle a battu? Alors, est-ce que c'est 1, Samantha Davis?
Ah, il y a des choix.
Moi aussi, j'ai
2, Clarisse Kremer. 3, Isabelle Joschke. Ou 4, Arlette Laguiller.
Arlette,
bien sûr. C'est la réponse A.
C'est la réponse A, Samantha Davis. Eh bien, pas du tout.
C'est la réponse B.
Il n'y a pas de B, c'est 1, 2, 3, 4.
Voilà. C'est la réponse 2.
C'est la réponse 2. Bravo, tu ne sais même plus de qui je parlais. C'était bien, c'est Clarisse Kremer. Voilà, Samantha Davis, elle a fini en 4e en 2008-2009. Ah. Ok, elle a dû abandonner en 2020-2021. Pourtant, moi, je l'adorais, Samantha Davis. Pour Initiative Cœur, c'est Clarisse Kremer qui a fini 12e seulement, mais qui a quand même battu, parce que c'était quand même un Vendée Globe très rapide, qui a quand même battu le record de Hélène MacArthur. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Hélène MacArthur, qui a fini 2e en 2000-2001, en 94 jours, et là c'est Clarisse Kremer qui l'a fait en 87 jours. Voilà, Isabelle Joschke était très bien partie, la troisième proposition, mais elle a abandonné sais plus trop quand. Et Arlette Laguiller, elle est très forte en voile, mais elle n'a jamais voulu se lancer au Vendée Globe. Voilà. Ensuite, en mars, qu'est-ce qu'on a fait en mars? Je sais pas si vous vous souvenez, on a eu un épisode un peu historique parce que c'était notre premier invité.
Oui, on a parlé
le cheval.
Le cheval.
Je l'ai écouté.
Astier. Nicolas.
C'est pas le cheval là. Ouais,
le cheval ne pouvait pas. Voilà. Il avait paumé son permis de conduire. Et j'ai une question pour vous. Parce que comment s'appelle le nouveau cheval d'Astier Nicolas?
Carmel.
Est-ce qu'il s'appelle Babylone de Gamma? Réponse 1. Est-ce qu'il s'appelle Peregrine Took? Réponse 2. Est-ce qu'il s'appelle Piaf de Benville? Ou est-ce qu'il s'appelle Arlette Laguiller?
Il s'appelle Babylone.
Babylone de Gamma, tout à fait. Avec qui il n'ira pas au JO de Tokyo, malheureusement, parce qu'il s'est blessé. Il a une entorse, le cheval. C'est un magnifique Hongre de 2011, dont le papa s'appelle Mylord Cardo et la mère Happy Vergoignan.
Et
Piaf, très belle Hongre. Hein.
Piaf de Benville, c'est son cheval à Rio, avec lequel il gagne les deux médailles. Voilà. Et Arlette Laguiller a un très beau costume de cheval, mais qu'elle met exclusivement qu'à Halloween les ans.
Plus les chevaux sont forts, plus les noms sont compliqués. Parce que j'ai pas tout écouté de Astier. Parce que moi, ce que je montais quand j'étais un enfant, c'était caramel, vanille, dragibus, chocolat.
Alors pour l'instant,
c'était moins bien pour les speakers au JO. Voilà.
Pour l'instant, on va dire grosso modo que c'est quand même Thibaut qui est en tête. Hein, parce que bon.
Non, moi j'ai donné la.
Non, toi t'as un demi-point.
Alors en mai, on a fait Séville 82, bien sûr, avec l'un des rois des buteurs de l'équipe de France, Michel Platini,
qui était notre invité il y a 3 mois.
Qui, et là je me tourne vers Thomas qui est plus, ou alors Chloé, qui sont vraiment les deux gros fans foot
ici
présents.
Ouais, en plus pas là pour cette épreuve.
Quelle année Michel Platini était ministre des sports?
Et le comme les quatre personnes que je vais citer là d'ailleurs.
C'est ma question.
Comme d'ailleurs le cheval de Astier Nicolas qui a été aussi ministre des sports. Mais
Sous
de
Sarkozy.
Gamma.
Sous Sarkozy.
Ministre de l'agriculture.
Qui est le meilleur buteur de l'équipe de France? Qui a marqué le plus de buts avec l'équipe de France? Est-ce Thierry Henry? Est-ce non. Antoine Griezmann?
Chloé.
Est-ce Olivier Giroud? Ou est-ce Arlette Laguiller?
C'est facile.
Thierry Henry.
Thierry Henry, avec tout à fait.
4 buts, non ?
T'es pas loin, 51 buts pour 123 loin. Sélections. Olivier Giroud, figurez-vous, est deuxième avec 46 buts.
C'est ouf.
Il a dépassé.
Il a dépassé, mais il va plus jouer, donc il va, voilà. Antoine Griezmann, 42. Platini, 4e. Et Benzema, qui arrive tranquillement avec 36 buts. Le meilleur ratio dans ces 5-là, c'est quand même Platini, hein, avec un but tous les deux matchs.
Pas mal, comme moi.
vous avez fait, moi je n'étais pas là, vous avez fait Arnold Schwarzenegger, il me semble, et le culturisme. C'était en avril.
Oui.
Et j'ai une petite question, c'est quel est le premier film de Arnold Schwarzenegger au cinéma après sa période culturiste. Voilà. Est-ce que c'est Hercule à New York ? Est-ce que c'est Conan le Barbare ? Est-ce que c'est Le Privé de Robert Altman ou est-ce que c'est Arlette Laguier ?
C'est Hercule.
Hercule, moi j'aurais dit Conan.
Moi j'aurais dit Conan.
Eh bien, c'est une bonne réponse pour Sarah qui prend la tête. Hercule à New York.
Bon, le pitch, il est pour qui ?
Je vous dis le pitch parce que ça a l'air quand même magnifique. Après plusieurs siècles sur le mont Olympe, Hercule décide de passer à la vie citadine. Mais ce n'est pas toujours facile de s'adapter pour un demi-dieu.
Voilà. Mais alors, le pire, c'est que je l'ai vu.
Ça a l'air bien pour les.
C'est peut-être vraiment le pire film que j'ai vu.
Je crois que les copains de Nanarland l'ont fait. Je pense que ça fera un très bon 2 heures de perdu. Voilà,
ça a l'air bien.
Conan le Barbare, c'est que en 82. Et en fait, Le Privé de Robert Altman, il a un petit rôle dans lequel il joue. J'aurais aimé voir ça, mais il a été coupé au montage, quoi. Un gangster sourd et muet. Et il ne joue pas dans Arlette Laguiller. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu. Allez, avant-dernière question, on va parler de Lormane Odou qu'on a faite le 24 septembre. Lormane Odou, elle a apparu dans Celebrity Hunted, une série de Amazon Prime où le but
voilà. Il faut parler dans les micros sinon on vous entend pas, les enfants.
C'est le fait de capturer 8 célébrités, voilà. Donc je vais vous demander avec qui elle était comme célébrité.
Seb Lafrite,
numéro 1, est-ce que s'il y avait Seb Lafrite, Kev Adams et Franck Gastambide? Réponse 2, Seb Lafrite, Ramzi Bedia et Franck Gastambide. Réponse 3, Seb Lafrite, Henri le Ketchup et Marc la Mayonnaise. Voilà, je suis désolé, fallait absolument que je la fasse. Ou réponse 4, Arlette Laguiller, Robert Rue et Jean-Pierre Chevènement.
Tu peux redire les deux premières, s'il te plaît.
Seb Lafrite, Kev Adams, Franck Gastambide. Seb Lafrite, Ramzi Bedia et Franck Gastambide. Ou Lafrite, le Ketchup.
Je suis pas sûr qu'il y ait Kev Adams dedans, moi je dirais AB.
Eh bien, très très bonne réponse.
Bravo, de
Seb Lafrite, Ramzi Bedia et Franck Gastambide, avec entre autres aussi, il y avait son frère Florent Manodou, il y avait Djadjou.
Dadjou.
Ouais, c'est pareil.
Squeezie
et Darcy. Donc il y avait carrément un magasin d'électroménager. Voilà, avec Darcy. Et la dernière question.
De le redire au cas où on n'aurait pas compris.
Dernière question, on a fait Calais il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quand. Je n'ai pas noté. Bref.
Cette année.
Qui ont fait une finale, c'était magnifique. Il y avait d'autres surprises en Coupe de France. Il y a notamment une surprise incroyable d'une demi-finale de Coupe de France en 2017-2018.
Le Stade Malherbe.
Quelle était cette finale? Et non, ce n'est pas le Stade Malherbe. J'ai parlé de surprise,
on a
pour pas exagérer
demi, hein.
Non plus.
On a fait une demi.
Est-ce que c'était Guignon Red Star? Est-ce que c'était Quevilly Carquefou? Est-ce que c'était les Herbiers Chambly? Ou est-ce que c'était Arlette Laguier?
Arlette.
Si c'est pas Arlette, c'est
les Herbiers. Les Herbiers, ils ont pas sorti l'OM aussi?
Alors,
non,
pas eux.
Non,
tous les autres.
C'était
les Herbiers en Vendée contre Chambly. Pour la petite histoire, les Herbiers ont en finale, ils ont battu 2-0 Chambly. Et c'est Philippe Catherine avait écrit une chanson pour les Herbiers et Francis Lalanne avait écrit une chanson pour Chambly. Donc Catherine avait battu Lalanne, il y a quand même une justice. Quevilly, Carquefou, c'est des clubs qui ont éliminé l'OM un jour en Coupe de France. Malheureusement, je suis supporter marseillais, je sais de quoi je parle. Guignon aussi a éliminé l'OM, mais surtout ils avaient gagné Coupe de la Ligue alors qu'ils étaient en deuxième division.
Ils avaient
contre le PSG.
Ils avaient tous les cheveux bleus et j'ai encore un bout de doigt qu'on peut voir là qui traîne parce que j'ai mis un coup de poing dans le mur à cette époque-là. Je suis très énervé.
Voilà, donc je crois que tout le monde était à peu près guilteux. Je n'ai absolument pas compté les scores. Donc, je n'ai pas compté les scores et que c'est moi qui ai fait le questionnaire, c'est moi qui ai gagné. Merci.
Oh non, bon.
Mais t'as déjà des pins.
Bravo Olivier et merci beaucoup.
Et c'est ainsi que s'achève notre année 2021 de PO. Mais peut-être pas tout à fait.
Peut-être qu'on a peut-être une surprise.
Petite surprise pour votre Noël.
J'ai même pas du tout découvert.
On espère que ça vous fera.
J'adore les surprises.
Calme-toi Thibaut. En attendant l'année prochaine, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.
Mais oui, qu'on n'arrête pas d'alimenter comme des oufs, hein, vous avez bien vu, Instagram, Twitter,
Facebook
et Snapchat. Non, pas Snapchat, je rigole.
Et n'hésitez pas à écouter les autres podcasts de Fréquence Moderne.
Relire Tata
sur 2000
et 2 heures de perdu.
Et 20 minutes avant la fin du monde.
Voilà.
Joyeux Noël à tous. Bonne année.
Bonne année.
Et à l'année prochaine.
Ouais. My shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a crib of blood. Nigga, what? It ain't nothing but a party when we thug. And there I was, a young nigga with heart. Ain't had shit to lose. Pulling my pistol on the fools. You know the rules. D-R-E, you got me heated. My words like a penitentiary.